Alors il a appelé son fils, il a appelé Yosef. Et en fait, il l'appelle pour lui donner l'ordre, lui demander, donner l'ordre de l'enterrer en Eretz Israël et de ne pas l'enterrer en Égypte. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il appelle Yosef? On peut répondre simplement, il va demander quelque chose à Yosef que Yosef a probablement le pouvoir de faire, mais que les frères de Yosef n'ont pas vraiment le pouvoir de faire ce que Yaakov va demander. Voilà. Et il va faire jurer à Yosef. Il prend le même processus de serment que celui qu'Abraham a adopté quand il a fait jurer à Eliezer de ne pas marier Yitzhak avec une Cananéenne. Là aussi, il l'a fait jurer, ça s'appelle Nekitat Hefetz, c'est-à-dire, il lui a dit de mettre sa main sous la hanche, ça veut dire, il a juré en tenant un objet de mitzvah, qui est donc là où il y avait la circoncision, qui était le seul objet. Aujourd'hui, par exemple, on aurait fait jurer quelqu'un, si on veut donner du poids encore supplémentaire à son serment, on lui ferait jurer en tenant un Sefer Torah, par exemple, un objet qui a de la Kedusha. Donc, il fait jurer Yosef. Il lui demande, c'est à la fois un ordre, mais vous voyez dans le texte, c'est marqué « Al na tikvereini » Na, ça veut dire s'il te plaît. Il va lui faire jurer de le faire, mais il voit qu'il est obligé de mettre des formes, il est obligé de lui demander, s'il te plaît, fais-moi ça. C'est pas évident que il peut pas le lui imposer. Rashi, il amène tout de suite plusieurs explications, plusieurs drachot sur ce verset. Il dit d'abord pourquoi, il y a une première question, pourquoi cette paracha-là est stouma? Stouma, ça veut dire que dans le texte de la Torah, vous n'avez pas de point, de virgule, etc. Ce qu'on a, c'est ou bien un passage à la ligne, c'est-à-dire un nouveau paragraphe, ou bien un blanc dans la même ligne. On ne passe pas vraiment à la ligne d'après, mais il y a un blanc important, la longueur de quelques lettres, 9 lettres. Et donc, du coup, ça s'appelle une paracha qui est ouverte, c'est-à-dire c'est une nouvelle paracha. Alors que la paracha de Vayechi, elle est comme, il y a absolument rien qui n'indique dans la graphie du Sefer Torah qu'on a passé de Vaigash à Vayechi. Sauf que le texte le dit, Vayechi, mais il n'y a pas de point, il n'y a pas de marque visible sur le texte. On a changé de paracha. Donc la paracha est appelée fermée parce qu'il n'y a aucune ouverture. Parce que le blanc, c'est l'ouverture. Comme il n'y a pas de blanc spécifique, ce qu'il y a en général dans les parchiotes, entre deux parchiotes. On demande pourquoi est-ce qu'elle est stouma, celle-là. Alors on dit, le fils est Kevan, Shniftar Yaakov Avinu, puisque c'est la paracha dans laquelle Yaakov Avinu va, on va avoir le récit de la mort de Yaakov Avinu. Alors, avec cette mort, si vous voulez, Nistemu Eneyem Velibam Shel Israël Mitzarot Hashibud. Comme Yaakov n'était plus là, il n'était plus là pour les protéger, alors le Shibud va arriver, pas immédiat, mais il va arriver, et les Tsarot de ce Shibud, les ennuis, les souffrances de ce Shibud sont tellement grandes que c'est quasiment les yeux et le cœur des Bnei Israël se ferment. Parce qu'il y a eu ce début de Shibud. C'est une première chose. C'est-à-dire, la paracha, dans la graphie de la paracha, on voit que, voilà, c'est quelque chose se ferme. Se ferme, ça veut dire, voilà, les ténèbres vont commencer. Un davar acher, shebikesh legalot taketz lebanav. Yaakov Avinu avait l'intention de dévoiler à ses enfants le terme de l'histoire. Quand est-ce que les temps messianiques vont commencer? Ça, ce n'était pas le projet d'Hachem, visiblement. Quand il a voulu faire ça, Nistam Mimenu, la prophétie qui lui permettait de voir cette fin, elle a disparu. Ça, c'est une citation du Midrash. Rachidi, donc, il rapporte qu'il a voulu, il voulait dévoiler, donc ça veut dire qu'il le savait. Ce n'est pas qu'il a oublié, mais on verra plus loin dans Rashi que bien qu'il ait continué de le savoir, mais il y a comme ce n'était pas le projet divin, la Shrina s'en est allée. Il n'a plus d'inspiration, donc il ne pouvait plus le dévoiler. Vous ne pouvez plus leur dire. Donc tout ça, c'est la raison pour laquelle la paracha est fermée. Elle montre que chez les Bnei Israël, ça s'est fermé, puis aussi chez Yaakov aussi, quelque chose s'est fermé. Donc le texte en rend compte en fermant la paracha. Donc Vaikrivu Yemei Israël Lamut, et il appelle son fils Yosef et il lui demande, après lui avoir dit Imna Matsatichen Benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu veux bien le faire, donc, il lui demande de jurer. Et il lui dit que de l'enterrer en Eretz Israël et pas en Égypte, c'est Vasita Imadi Chesed Vehemet. Ce faisant, tu ferais avec moi du Chesed et du Hemet. Alors, c'est toujours Chesed ve'emet, et on dit c'est Chesed shel emet, le Chesed qu'on fait avec les morts, c'est un Chesed de vérité, parce que c'est un Chesed dans lequel on n'attend rien en retour. Le mort, il est mort, et Il va pas nous envoyer quelque chose en retour. Donc, on fait un recède à l'égard de quelqu'un, et contrairement à presque toujours quand on fait un recède, c'est pas vraiment un recède chez les maîtres, parce que quelque part, il y a dans ces recèdes une dimension d'investissement, c'est-à-dire je fais quelque chose et j'attends un retour. J'attends dans le don en question, j'attends un contre-don. J'attends que les choses reviennent, qu'il y ait un impact, que les relations s'améliorent, etc. Ici, il lui dit, tu vas faire du chesed avec moi en m'enterrant en Eretz Israël et pas en Égypte. Alors, une des raisons pour lesquelles il ne veut pas être enterré en Égypte, il dit, ben, finalement, on sait que dans les plaies, la poussière, la terre, va être complètement infestée de vermine. Donc, il n'a pas envie que son corps soit, ou ses restes soient infestés de cette vermine-là. Mais en fait, la vérité, c'est plus profond que ça. C'est ce que dit Rachiv, Shelo Yasuni Mitzrayim Avodat Elilim. Il y avait un risque que les Égyptiens se mettent à adorer, à faire de Yaakov une idole. Dans la mesure où quand Yaakov est arrivé, les années de famine ont cessé. Donc, il y aurait eu des raisons pour que les Égyptiens le divinisent. C'est la même raison qui fait que on ne sait pas où Moshe Rabbeinu est enterré pour qu'on ne puisse pas se mettre à l'adorer. Alors, on voit ici que il n'a pas attendu comme il a attendu pour donner les brachot. Les brachot qu'il va donner à ses enfants, il va les donner plus tard. Là, il n'a pas attendu de mettre en marche la garantie de son inhumation en terre d'Israël. Il a voulu le régler tout de suite. On pourrait dire que il dit tu vas faire avec moi du chesed chez l'Emet, du chesed v'Emet, mais en fait en acceptant il fait déjà du chesed de l'Emet. Bon, on pourrait se dire il accepte parce qu'il veut que son père lui donne des bonnes brachot. Il sait bien qu'à la fin de sa vie, son père va les bénir. Et pour obtenir une bonne bracha, on pourrait dire, voilà, il accepte la demande de son père pour être bien vu par son père et recevoir une bonne bracha. Alors, on dit pas ça. On dit que vraiment le recette de l'émettre, c'est parce que il s'est engagé à faire quelque chose à Yaakov, quand Yaakov sera mort. On pourrait discuter, mais. C'est pas une démonstration mathématique, hein, c'est. Alors, ce verset de Vaïkvou, Yemei Israël, Lamout, c'est un drôle de verset parce qu'on a l'impression dans ce verset que c'est les jours qui meurent. Vaïkvou, Yemei Israël, Lamout. C'est l'homme qui va mourir, mais ce n'est pas les jours. Donc, c'est une question qui est posée dans le Zohar. Et le Zohar répond en disant que quand quelqu'un meurt, alors on amène tous les jours, tous ses jours se présentent devant Hachem, tous les jours de sa vie. Et Hachem juge ses jours. Est-ce que ces jours ont été pleins au sens de la avodat Hachem ou non? Et donc, c'est les jours eux-mêmes qui, en quelque sorte, s'approchent, sont jugés. C'est ça que dit, entend le Zohar dans ce verset-là. Sa madriga, le niveau de Yaakov était tel qu'il a rempli, les jours étaient suffisamment remplis. Et donc, c'est les jours qui l'amènent à Olam Haba, en quelque sorte. Il y a quelque chose, si vous voulez, on voit bien que la phrase est un peu étrange. Le mot Emet ici, il est très, très sévère en quelque sorte, puisqu'on entend ici que si quand quelqu'un fait du chesed, il pense que ça lui donne un certain droit, quoi, parce que j'ai bien fait, ou il est content de lui, c'est déjà plus vraiment du Emet. Le maître, c'est extrêmement fin, très exigeant. Et donc, il lui dit, voilà, « Shachati mavotai » et je veux reposer avec mes ancêtres, Abraham et Yitzhak, et Adam Arishon, et tu m'enterreras dans là où eux sont enterrés. Et Yosef lui a répondu, « Vayomer, anochi et sechidvarecha. » Yosef répond, « Je ferai comme tu me l'as demandé, comme tu l'as dit. » Yaakov n'est pas content. « Vayomer, ishavali. » Il lui a demandé de le jurer. Et il a juré. Comme on a vu, il lui a dit de mettre. Donc, il a juré avec en mettant sa main sous la hanche. À ce moment-là, Yaakov s'est tourné du côté de la Shrina. La Shrina est du côté de la tête du lit. Et s'est prosterné face à la Shrina parce qu'il avait obtenu, en remerciement, en quelque sorte, en reconnaissance, que Hachem a inspiré à Yosef de lui obéir, en fait. On verra qu'il va y avoir un petit problème à régler. En fait. Bien, donc là, cette question de comment est-ce qu'il va être enterré, etc., c'est réglé. Quand il lui demande de jurer, ça peut apparaître comme un manque de confiance. Je veux pas me satisfaire de ce que Yosef lui a dit. Je ferai ce que tu m'as dit. Jure-le. En fait, c'est pas du tout parce que Yaakov manquait de confiance en Yosef. Vous savez bien pourquoi il l'a fait jurer. Lorsque Yaakov meurt et que Yosef dit qu'il va partir il va quitter l'Égypte pour aller enterrer son père, Paro lui dit, mais tu rêves, c'est impossible. On ne peut pas te laisser partir, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Tu as tous les secrets de l'Égypte, c'est lui qui a tous les codes, toute la richesse de l'Égypte, tous les silos, etc., tout ce qui a, toutes les réserves, parce que maintenant il faut terminer ces fameuses années de famine. Tu es interrompu par Yaakov Avinu, mais il faut terminer. Donc il a tous les secrets de l'Égypte. On peut pas. S'il s'en va et il va s'allier avec des ennemis éventuellement, on est perdu. Donc il n'en est pas question. Alors Yosef a dit, mais j'ai juré à mon père de le faire. Je suis obligé de le faire. Tu dois me laisser le faire. Alors Paro lui dit, mais moi je suis au-dessus de ça. J'annule tous tes serments. Quand on est au-dessus, en certains cas, on voit par exemple que on peut annuler les serments de quelqu'un s'il y a une relation entre, voilà, si, et surtout si ces serments mettent en cause. Un mari peut annuler les serments les chevaux, les nedarim de sa femme, si ces nedarim mettent en cause la vie conjugale, mais la vie de, bon, si elle fait des choses, elle s'engage, elle s'interdit de faire certaines choses qui sont absolument nécessaires dans le fonctionnement de la maison, dans les relations avec lui ou avec les enfants, etc. Il peut annuler les vœux et les serments de la femme. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui met en danger l'Égypte. Et donc, Paro dit, j'annule tous tes vœux. Et c'est là où on voit que Yaakov avait... Il avait su qu'il y aurait un problème, et en faisant jurer Yosef, c'est ça qui va permettre de l'enterrer vraiment en Eretz Israël, parce que quand Paro a annulé les vœux de les serments de Yosef, il a aussi annulé un serment que Yosef avait fait à Paro. En fait, il y avait, on voit dans le Midrashim, dans le Tehilim, on voit que un roi en Égypte, il se devait de connaître les langues. Et quand Yosef a été nommé vice-roi, il n'a pu l'être que parce que on a vérifié qu'il connaissait toutes les langues. Il y a eu un S, Gabriel lui a enseigné toutes les langues dans la soirée ou avant son couronnement. Mais quand Paro a interrogé Yosef pour savoir si effectivement il connaissait toutes les langues, et quand Yosef a parlé en hébreu, Paro ne comprenait pas. Donc en vérité, Paro ne connaissait pas toutes les langues. Et de ce fait, il était un usurpateur. Il n'avait pas le droit d'être Paro. Il n'avait pas le droit d'être empereur d'Égypte. Et alors il a fait jurer Yosef qu'il ne dévoilerait à personne qu'il ne connaissait pas l'hébreu. Alors Yosef a dit, ok, maintenant je peux raconter à tout le monde que tu es un usurpateur. Tu ne connais pas l'hébreu. Tu viens de me libérer du serment que je t'avais fait. Alors, Paro a dit, tu peux y aller. Le chantage ici, il fonctionne. Bon, on peut se demander, mais est-ce que Paro n'a pas le pouvoir de dire, j'annule tous les serments sauf celui-là? Peut-être qu'il aurait pu, mais qu'il a réagi un peu trop vite. Il était tellement choqué de la volonté de Yosef d'aller enterrer, de sortir d'Égypte pour aller enterrer son père que bon et quand Yosef a fait valoir mais j'ai juré, il a dit j'annule tous tes vœux. Il aurait dû dire j'allume ton vœu. Mais non, il a annulé tous les vœux et du coup c'était fait. Il pouvait visiblement quoi qu'on en pense de ces rois, ils se considéraient pas en position de revenir et de changer, de dire j'annule tous les vœux sauf celui-là, etc. Mais ça marchait pas. C'était trop sérieux, un serment pour qu'on puisse jouer avec ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous jurent n'importe quoi et vous promettent tout ce que vous voulez. Sans vergogne, mais les gens prenaient au sérieux ce genre de choses. Et donc, c'est la raison ultime pour laquelle Yaakov a fait jurer Yosef. Bien. Ensuite, on a dit à Yosef, voilà, un peu plus tard, on a dit à Yosef, ton père, voilà, il est vraiment malade. Alors, ça voulait dire que c'était sérieux. Alors, Yosef a pris ses fils, ses deux fils avec lui, et Menaché et Ephraïm. Menaché, c'est l'aîné, et Ephraïm, le second. Et on a raconté à Yosef, à Yaakov, voilà, ton fils Yosef arrive. Alors, bon, Yaakov qui était au fond de son lit, il s'est rassis, il s'est renforcé un peu. Et il a commencé à raconter une histoire à Yosef. Il lui dit, voilà, El Shakai, c'est un des noms divins, dira Ella Belouz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Et la bénédiction, c'est, il m'a dit, « Ineni mafrecha virbiticha, taticha lekalamim, penatati et haaretz azot lezaracha acherecha. » Donc tu vas devenir un grand peuple. La terre, je la donnerai, cette terre-là, je la donnerai à tes descendants. En héritage définitif, en fait. Mais maintenant, et alors là, Yaakov fait quelque chose d'absolument énorme. Il lui dit, « Shnei banecha noladim lecha be'eretz Yisraïm ad bo'i elecha Mitzrayma lihem. » Voilà, tes deux enfants, les enfants qui sont nés dans, comme il lui dit, dans le pays d'Égypte, avant que je vienne vers toi. Bon, alors on dit qu'en réalité, ils sont nés à ce moment-là parce que ils ont dû naître dans les années d'abondance, parce que dans les années de famine, on n'a pas le droit, a priori, d'avoir des relations conjugales. On ne veut pas que les gens se prennent du plaisir, en quelque sorte, alors que les autres sont en train de crever de faim. Alors il lui dit, voilà, ses fils, ce sont tes fils, ben, je les prends. Vous vous rendez compte? Il lui prend ses enfants. C'est à moi, ils sont à moi. Je les mets, et alors il les met, quand il dit c'est à moi, ça veut dire, c'est pas que, voilà, ils sont à moi, simplement. C'est pas simplement qu'ils sont à moi. C'est qu'ils sont à moi et que je vais les considérer comme mes propres fils. Ce sont mes petits-fils, mais je les considère comme mes fils. Ils sont comme, pour moi, ils sont comme Reuven et Shimon. Ils sont comme mes deux premiers fils. Mais maintenant, les enfants que tu auras par la suite, on les rattachera justement à ces deux-là que j'ai pris. Ça veut dire que le clan d'Israël, que Jacob avait mis au monde, si vous voulez, les 12 fils qu'il avait. C'était parfait, il avait 12 fils. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il en prend deux à la place de Yosef. Il n'y a plus de tribu de Yosef. Il y aura une tribu de Menaché, une tribu d'Éphraïm, mais plus de tribu de Yosef en tant que tel. Mais donc, si on a remplacé un par deux, alors ils sont 13, ils ne sont pas 12. Alors, comme vous allez voir par la suite, quand on va faire le décompte, quand on fera le décompte, ou bien on parlera de Yosef, on ne mentionnera pas Menaché et Ephraim, ou si on mentionne Menaché et Ephraim, dans le décompte en question, il n'y aura pas Lévi. Lévi, il aura un statut à part, puisque Lévi, c'est la seule tribu qui n'aura pas de territoire. Lévi n'a pas de territoire, les Lévim et les Kohanim n'ont pas de territoire, les Lévim vont avoir des villes, mais sans territoire. Pourquoi? Parce que du territoire, ça veut dire qu'il faut faire ou bien de l'élevage ou de l'agriculture. Et les Lévim, par Lévi, on entend Lévi et Cohen aussi, évidemment, les Kohanim, c'est une partie des Lévi. Donc la tribu de Lévi va se consacrer entièrement au service d'Hachem. Et donc, ils sont pas libres. Ils sont pas libres pour s'occuper comme il faut s'occuper des terres de territoire. C'est pour ça que les Lévim sont jamais, pratiquement jamais comptés avec les autres. Donc on a 12 tribus qui sont des tribus à territoire, si vous voulez. Mais c'est assez énorme parce que du coup, il a mis une... Dans les 12 tribus, si vous voulez, il y a une... Il n'y a pas de véritable unité. C'est pas tous les enfants de Jacob. Il y en a deux qui sont en fait les neveux des autres. Les autres sont leurs oncles. Vous avez 12 qui sont formés d'une génération et d'une autre génération au-dessus d'eux. Ou en dessous, si vous préférez.
Alors,
qu'est-ce que ça dit vraiment? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi le clan d'Israël a cette espèce de déséquilibre, si on peut parler comme ça, qu'on ne voit pas apparaître par la suite? Pas du tout. Ils sont vraiment mis sur le même plan. Alors, est-ce que les oncles ont apprécié que leurs neveux deviennent aussi importants qu'eux? Ou est-ce que les neveux ont eu un complexe par rapport à leurs oncles? Parce que quand il s'agissait de prendre des décisions, est-ce que ils auraient du mal à s'imposer par rapport aux... On voit pas ça, on voit au contraire que la tribu d'Ephraïm, par exemple, qui est la tribu de Yoshua, le successeur de Moshe, c'est la plus grande tribu de ce qui va être par la suite le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et le, Jéroboam, qui est le roi auquel Hachem a donné ces 9 tribus et demie, là, qui au départ devait être un super tzaddik, mais qui finalement est devenu un super idolâtre. Jéroboam, il était issu de la tribu d'Éphraïm. Alors bien sûr, le double en question, c'est de donner une double part à Yosef. Mais on aurait pu imaginer qu'il lui donne une double part, c'est-à-dire en superficie qu'il lui donne, quand on va répartir les tribus sur la terre d'Israël, on va attribuer à chaque tribu une certaine part du territoire. Alors bon, s'il a besoin d'une double part, on va lui donner, si les uns ont obtenu 100, on va lui donner 200. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il va avoir 2 tribus. En fait, Yaakov fait un coup de force en quelque sorte. Parce que c'est bien joli de dire à quelqu'un, écoute, tes enfants désormais c'est les miens. Ils seront exactement comme les autres, comme Reuven et Shimon. Voilà, donc ici, il fait un cadeau, semble-t-il, à Yosef. Je te donne la double part. C'est-à-dire, je te traite comme l'aîné. Tu es l'aîné de Rachel, mais pas l'aîné de mes enfants à moi, pas de tous les enfants, mais c'est l'aîné de Rachel. Et comme Rachel était la femme aimée, si on peut parler comme ça, alors, c'est à lui qu'il a donné cette forme de droit d'aînesse. Vous voyez, on voit déjà, enfin, on a déjà vu depuis quelques parchiotes, une espèce de rivalité entre Yehuda, qui est, fait partie des, qui va être la tribu royale, mais, vous vous souvenez pourquoi elle est la tribu royale, enfin, je pense que c'est toute la raison, mais en fait, curieusement, c'est Reuven qui aurait dû être tout à la fois Melech, Kohen Gadol, et avoir la double part, puisqu'il était le premier-né. Mais bon, Reuven s'est disqualifié avec l'histoire de Bilha en particulier, et donc ça descend au suivant. Mais les suivants, c'est Shimon et Lévi. Mais là, il n'est pas question de faire d'eux des rois, avec toute leur impulsivité, etc. Et comme ils sont des assassins, quand même, ils ont assassiné les gens, ils ont tué les gens de Shrem. Donc, eux, ils sont aussi disqualifiés. Et donc, le quatrième, donc, presque par défaut, c'est Yehuda. C'est Yehuda qui devient le roi. Je veux juste faire une remarque. J'en fais pas grand-chose pour l'instant, mais c'est curieux cette idée que, au départ, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, puisque le Kohen Gadol est en même temps le roi. Mais à partir du moment où c'est pas Reuven qui est roi et Kohen Gadol, alors ça se distribue. C'est-à-dire la royauté, elle va chez Yehuda, la Kehuna, elle va dans la tribu de Lévi, Kohanim, et la double part, elle va chez Yosef. Et Yosef, d'une certaine manière, il est aussi un peu roi. Yehuda devient le roi. Même avant la royauté effective, je veux dire, mais il est considéré comme le roi, le chef. Mais en même temps, il y a Yosef qui rêve de cette royauté et qui, de facto, va devenir le roi des Bnei Israël, puisque c'est lui qui les dirige. A priori, c'est lui qui leur dit où ils doivent s'installer et c'est lui qui les nourrit. C'est vraiment un roi nourricier dans le bouquin de Thomas Mann sur cette histoire. Je crois qu'un des volumes s'appelle Yosef le nourricier. Lui-même, il va le dire. Hachem m'a envoyé comme nourricier. Donc là, on a cette chose un peu hybride qui constitue le clan d'Israël avec des gens de deux générations différentes. Et alors maintenant, il continue une espèce de plaidoyer. Il dit, Va'ani bevorim et Padan. Et moi, quand je suis venu de Padan, il s'agit de Padan Aram, il s'agit du moment où il est venu de chez Lavan, c'est parti de chez Lavan pour aller en Eretz Israël. Meta alai Rachel be'eretz Kenan. Rachel est morte pour moi, en fait. Be'eretz Kenan, dans le pays de Canaan. Baderer, en chemin. Vod kivrat eretz lavo Efrata. On n'était pas vraiment encore, enfin, n'était pas encore en territoire d'Israël. Il y avait encore une bande de terre qui séparait Bethléem où Rachel a été enterrée et la terre d'Israël. Pourquoi il lui raconte tout ça? D'abord, Yosef le sait, mais pourquoi il le dit ici? Alors, il dit, voilà, elle est morte là-bas, là-bas. Vegbra, et je l'ai enterré, et Cham, là-bas, Baderer, Ephrat, pardon, sur le chemin d'Ephrat, qui est Bethléem. Pourquoi il raconte ça? Il raconte ça, en fait, le Midrash dit que Yaakov dit à Yosef, tu pourrais m'en vouloir, et tu pourrais, en fait, refuser de m'enterrer en Eretz Israël par représailles, de même que moi je n'ai pas enterré ta mère en Eretz Israël, je l'ai enterrée en chemin, mais pas en Eretz Israël. Bon, tu pourrais dire, tu n'as pas enterré ma mère en Israël, je ne t'enterre pas non plus en Israël. C'est ça que la Torah dit, c'est ça qu'il raconte toute cette histoire. Je veux dire, j'ai pas pu, c'était impossible. Mais je comprendrais que tu veuilles, que tu m'en veuilles et que tu refuses de le faire, mais je te demande, c'est pour ça qu'il lui supplie littéralement, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. On aurait pu imaginer quand. Après, il a dit, je vais être enterré avec mes ancêtres, mais Yosef aurait pu dire, écoute, je veux bien ne pas t'enterrer en Égypte, mais je t'enterre à côté de ma mère. Pas dans ma Tamarpella. Pour Yosef, ce qu'il lui a demandé, c'est de l'enterrer à un endroit où sa mère n'était pas enterrée, donc. C'est-à-dire que Yosef, en obéissant à son père, il contribue à faire en sorte que pour l'éternité, Yaakov, pardon, n'est pas enterré à côté de sa femme Rachel, il va être enterré à côté de Léa. On aurait pu penser que Yosef lui en veuille et refuse. Alors là, il va bénir ses petits-enfants. Et avant, il s'exprime et dit, c'est absolument là, on nous dit que on n'y voit plus très clair. Yosef vient, il l'embrasse, etc., il prend dans les bras. Et Israël dit à Yosef, Jacob dit à Yosef, je n'espérais même plus voir ton visage. Et voilà que Elohim me permet de voir ta descendance, pas seulement toi, mais aussi ta descendance. Alors du coup, Yosef il avait les enfants entre ses jambes, quoi, donc étaient contre lui. Alors il les a fait sortir, s'éloigner de lui, et ils sont allés se prosterner devant Yaakov. Alors on a vu. Un texte qui dit voilà. Vous voyez quand Yaakov a dit à Yosef, tes deux fils qui te sont nés en Égypte, il a dit Ephraim et Ménaché. Il les cite dans le mauvais ordre. Ménaché, comme je est l'aîné, je vous l'ai dit. Il aurait dû dire Ménaché et Ephraim. Mais il dit Ephraim ou Ménaché. Alors vous allez voir, ça se précise. Yosef, quand il a voulu faire bénir ses fils par Yaakov, donc il s'est dit, je veux que Yaakov pose sa main droite sur mon aîné, sur Ménaché. Donc il a mis Ménaché à sa gauche à lui, puisque lui il est allé en sa gauche à lui, qui était face à Yaakov, c'était la droite de Yaakov. Et sur sa droite, qui était la gauche de Jacob, il a mis Ephraim. Okay, donc comme ça, il a fait tout ce qu'il fallait pour que, effectivement, Jacob pose ses mains au bon endroit. Et qu'est-ce que fait Jacob? Il croise les bras. Sa main droite, il la pose sur celui qui est à sa gauche. Et l'autre aussi, et l'autre sur sa droite. Donc il met sa main droite sur Ephraim, qui est le plus jeune. Alors, Yosef intervient, il lui dit, ok, non. Il dit, non, mais c'est pas comme ça. C'est Ménaché qui est l'aîné. Mais son père lui dit, je sais bien, je sais. Mais Ephraim, en fait, Ephraim jouera un rôle plus important que Ménaché. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pas lui qui a décidé qu'il allait jouer un rôle plus important. On a l'impression, Yaakov sait qu'Ephraim va jouer un rôle plus important. Et par conséquent, il place les mains comme il les a placées. Bon, et il les bénit. Et il leur donne une bénédiction qui est encore, il leur dit, Bechai Varech, Israël, les morts. Donc, nous, on a encore toujours cette bracha de Yesimcha Elohim, qui est Ephraim Vechimenaché. Toujours Ephraim d'abord et Menaché après. Vayasem et Ephraim Lifne Menaché. il a mis Ephraim devant Menaché. Et il a expliqué. Elohim sera avec eux, avec vous tous. Et il le répète. Il vous ramènera, il parle à des gens qui sont en Égypte, il vous ramènera vers la terre de vos ancêtres. Et quant à moi, Vani, la Tati Lecha, il s'adresse cette fois-ci à Yosef, donc, il dit, je t'ai donné Shrem Echad al Achecha, Asher Lakarti mi Yad Aemori, Becharbi ou Bekashti. Toi, je t'ai donné un morceau supplémentaire, en quelque sorte. Un morceau que j'ai conquis sur les Moréens. Alors, Rachi explique que c'est Esav. Becharbi ou Bekashti, c'est avec mon étude et avec ma prière. Rashi dit, Becharbi, c'est mon cherev, normalement c'est mon épée, et Bekashti est mon arc. Rashi dit, Ichochmato ou Tfilato. Sa sagesse, donc c'est une étude, quoi, sagesse et sa prière. Donc, il a réglé séparément le problème de Yosef. Et ensuite, il va s'occuper de tous les frères, il va se réoccuper de Yosef, mais maintenant, il va s'occuper de toute la fratrie, plus exactement des tribus. Donc, mais ici, on va parler de Yosef. Et pas encore d'Ephraïm et Ménaché tel quel. Ephraïm et Ménaché, c'est déjà fait. Donc, il appelle ses fils et il leur dit, rassemblez-vous, je vais vous raconter et ta chère, je vais vous raconter ce qui se passera avec vous dans à la fin des temps, c'est-à-dire au temps messianique. Et c'est là que Rashi nous dit, Bikesh Yaakov, donc le galot est à Ketz. Il a voulu dévoiler le Ketz, Nistalkam Menushrinat, Ashrina. Et donc, il avait, Itril Omer Dvarim Acherim. Et il a dit autre chose. Voilà. Et voilà. Reuven Bechori Ata. Reuven, tu es mon premier. Kochi ve Rishitoni, tu es ma force et ma première énergie, en fait. Yeter Seet, Yeter Az. Mais trop de Seet et trop de Az. Rashi dit, Yeter Seet, Raoui Aita Aliot, Yeter Alachecha, Bekeunato, Bekeuna, tu aurais dû être au-dessus de tes frères par la Keuna, la Shon Nesiat Kapain, Le mot qui est utilisé ici, Seet, élévation donc, c'est en rapport avec Nesiat Kapaim, le fait d'élever les mains pour bénir. Et Veyeter Az, ça c'est la royauté. Donc tu aurais dû avoir la Kehuna et la royauté. Mais Umi Garam Lecha Leafsid et Kol Ele, mais qui a fait en sorte que tu perdes tout cela? Pachaz Kamaim Al Toter, qui Alita Mishkeve Avicha, Az Filalta Yesui Allah. Pachaz Kamaim, Rashi dit, Apachaz Veabeala, donc c'est l'exubérance, l'excitation, la Beala, c'est le. Bon, t'es trop choqué, trop pressé, quoi. Asher mi harta le harot kaasra, kemaim alalu, המערים למרוצותם לכך. Donc il lui dit, tu étais trop impulsif, trop rapide en fait, tu as tout de suite manifesté ta colère, tu aurais dû y réfléchir. L'amida de Reuven, c'est l'amida de Emmet. Et dans l'amida de Emmet, il n'y a aucun déchet. Tout est complètement récupérable. C'est la raison pour laquelle Yaakov dit à Lavan, quand Lavan l'accuse d'avoir volé ses trophim, ses pénates, il dit, Miche biyado, celui qui les a dans sa main, et qu'on les y trouve, tous les trophim, lo yichye. Il ne vivra pas. Donc, alors, comme vous savez, c'est Rachel qui avait pris les Tefilim pour empêcher son père de pratiquer la magie, la divination qui lui aurait permis de se rendre compte beaucoup plus tôt que Yaakov avait quitté le pays, en fait. Il l'a su que 3 jours après. Il aurait pu le savoir tout de suite s'il avait pu consulter ses Tefilim. Et Rachel ne voulait pas qu'il puisse le faire, elle lui a piqué les trafics. Et donc, dans la parole de Jacob, en vérité, il y avait une condition. La condition, c'est si on les trouve, celui chez lequel on les trouve doit mourir. Mais Lavan ne les a pas trouvés. Les trophées étaient chez Rachel, qui les avait cachés. Et comme elle ne s'est pas levée, elle a fourni une excuse, et donc Lavan ne les a pas trouvés. Et néanmoins, elle est morte de cette klala de Yaakov. Parce qu'il y a un principe qu'une klala, même si on y met des conditions, et que les conditions ne sont pas remplies, si cette klala elle a été donnée par un tzaddik, elle s'accomplit. Quelque part, c'est comme si chaque mot devait pouvoir s'accomplir et par conséquent, voilà, il reste que si on enlève la condition, ben, la phrase, elle dit clairement qu'elle doit mourir. Jacob a dévoilé à Reuven que cette Mida qui est mauvaise ici, cette Behala, cette faire les choses dans la presse sans avoir le temps de réfléchir, c'est pas simplement qu'il s'est mis en colère, mais qu'immédiatement il a manifesté sa colère en agissant en fait. C'est pourquoi Jacob lui a enlevé la Kehuna et la Malchut. Et donc il faut savoir que on ne peut pas être Cohen si on est Mevoal. Parce que les Kohanim, ils font toutes les choses très, très rapidement, effectivement. Alors, on pourrait dire, mais c'est très bien, c'est magnifique, c'est un résout. Pourquoi est-ce qu'on... On dirait que chez Reuven, c'est considéré comme négatif. Mais le problème, là, Zrizout, c'est pas seulement faire n'importe quoi rapidement. C'est faire les choses après avoir réfléchi, peut-être réfléchir très vite, pour savoir ce qu'il faut faire exactement. C'est ça que Reuven n'a pas fait. Alors, on a l'habitude, et on voit qu'il s'agit de bénédiction, là. Alors, en quoi est-ce que c'est une bénédiction, là, ce qu'il vient de dire à Reuven? Ça ressemble plus à une malédiction qu'à une bénédiction. On va plus bas, on va dire « Ish asher kivirkato berach otam ». Il a donné une bénédiction à chacun en fonction de ce qu'il était. Où est la bénédiction, là? Alors, la réponse, elle est que une bracha, de dévoiler à quelqu'un quelle est sa mauvaise mida, donc sur quoi il faut travailler, de quoi il faut qu'il se méfie dans sa conduite, ça s'appelle une bracha. Parce que ça lui permet d'amplifier ce qui doit être amplifié et de, au contraire, d'empêcher le reste d'être amplifié et même éventuellement faire en sorte qu'on arrive à le... canaliser, à le faire disparaître. Oui.
Monsieur Alex, je me demandais par rapport à la fois dernière, vous avez fait un parallèle entre la coupe que Yosef avait cachée dans les
et
affaires.
Rachel, les pénates de Rachel.
Oui, et exactement. Et je n'ai pas bien compris, enfin, bien sûr, je comprends, mais jusqu'où ça va cette analogie quand on la on l'amène jusqu'au bout.
Non, l'analogie, elle servait comme argument pour dire que le fils de Rachel avait cette mauvaise mida de sa mère. Et donc, il y avait lieu de le combattre parce qu'il a une mauvaise mida. Et que c'est pas qu'il avait, lui, quelque chose personnellement, mais que c'est quelque chose qui touche globalement les descendants de Rachel. La question qu'avait Yosef, c'est: est-ce que ce qu'ils m'ont fait, c'est seulement à moi, ou bien est-ce qu'ils l'ont fait parce que je suis un descendant de, je suis un fils de Rachel? Et donc, il a mis en scène l'histoire de Binyamin avec quelque chose qui rappelait Rachel, qui rappelait le vol des pénates par Rachel. Là, elle a volé ce qui permettait à Laban de faire la divination, et son fils Binyamin, là, on l'accuse d'avoir fait la même chose, d'avoir volé ce qui permet à Yosef, au vice-roi d'Égypte, de faire de la divination. On verrait bien que c'est pour accentuer, si vous voulez, le lien, le fait que c'est en tant que Bnei Rachel, c'est-à-dire les enfants de la femme préférée et qui est fait l'objet bon, que les enfants de Léa n'aiment pas.
Rav Gronstein, il y a un autre, ce que c'est un trait de caractère, je ne sais pas, mais qui agit. Rachel cache les choses. Ce n'est pas par Tziout. On peut concevoir.
Qu'est-ce qu'elle a caché?
Pardon?
Qu'est-ce qu'elle a caché?
Quand elle a caché les pénates.
On parle de ça, c'est ça qu'on parle.
Oui, mais non, je le rapporte à autre chose, si vous permettez. Elle ne l'a pas dit à son mari. À nouveau, à Yosef, elle fait elle cache quelque chose. Et ce qui fait que ça piège Yosef, qui finalement, elle est morte parce que, encore une fois, elle a caché quelque chose à Yosef. Elle n'a pas jugé utile.
Je crois que. Qu'est-ce qu'elle a caché à Yosef? Elle, Rachel, elle n'est plus là. C'est Binyamin qui a caché.
Non.
Binyamin qui a volé.
Oui, non, non.
Il a caché. Il n'a rien caché.
Non,
il a volé.
C'est pas sur ce plan-là. Je dis que Rachel, quand elle a caché les pénates, elle a pris les pénates de son père, c'est effectivement dans une bonne motivation. Mais le fait qu'elle ne l'ait pas dit en même temps à son mari...
Pourquoi ça... elle devait le dire?
Pardon?
Pourquoi est-ce qu'elle devait le dire?
Pourquoi cacher ça à son mari? Ce qui fait que ça... Parce que dans la conséquence, c'est quand même grave. Elle est morte parce que son mari, ne sachant pas qu'elle avait caché, il a dit: chez moi, il n'y a personne qui prend, qui vole. Et donc, il y a eu une conséquence.
En fait, il n'avait pas dit seulement que, et si tu trouves chez moi quelque chose, il n'avait pas dit simplement si quelqu'un. Bien sûr, il pensait qu'il n'y avait personne qui l'avait volé, mais il avait mis comme condition qu'on le trouve. Et donc. Si vous voulez, en plus, Benjamin, il n'a rien caché. Il n'avait rien fait du tout, Benjamin.
Non, mais c'est dans l'héritage de Rachel, elle cache.
C'est pas dans l'héritage de cacher. Benjamin n'a rien caché.
Non, mais Mida Kenegen.
Dans l'héritage de Rachel, il n'y a que le fait d'avoir pris les pénates pour empêcher de faire de la divination. Et lui, il a pris la coupe pour empêcher de faire de la divination. C'est ce dont on l'accuse. À tort, évidemment. Il n'y a rien à voir avec caché.
Non, je n'ai pas su le faire, mais j'essaie de trouver un parallèle entre le fait qu'elle est...
Je ne vois pas du tout.
D'accord.
Désolé, je ne vois pas du tout.
S'il vous plaît, Rab, pourquoi pour un vol, on parle de tuer quelqu'un? On n'a jamais dit dans la Torah qu'on tue quelqu'un quand on vole quelque chose?
Non, mais ici, il ne l'a pas condamnée parce qu'elle a volé. Il a voulu dire que tu m'accuses de quelque chose de tellement fondamental que chez nous, on est loin du problème. C'est une horacha, c'est pas c'est pas l'application de la loi du vol. Voler un objet, c'est effectivement, vous avez parfaitement raison, ça n'a jamais entraîné une peine de mort. Quand on dit dans les 10 commandements que on n'a pas le droit de voler, il s'agit pas du tout de voler un objet, on n'a pas le droit de... c'est le kidnapping qu'on parle, qui lui est passible de mort. Vous avez raison, mais c'était pas du tout l'application de la halakha. C'était parce que Yaakov voulait bien montrer à Lavan qu'il était absolument certain que personne chez lui n'allait voler. Et Rachel, elle n'a pas volé, elle a caché les pénates pour enlever la possibilité à quelqu'un de faire un vol à Zara, c'est peut-être pas du vol. Il est aussi Metsouvé sur Avodah Zarah, Lavan. Il n'a pas le droit d'être idolâtre.
Alors peut-être tu dis simplement on ne vole pas chez nous, un truc comme ça, mais sans mettre
c'est
de.
C'est ce qu'il a dit, mais il était sûr de son coup, donc il a dit si jamais tu trouves, la personne mérite la mort.
C'est pour ça
que. Il a été dépassé par ses paroles, parce que comme c'est un sadique qui parle, même s'il met une condition, la condition n'est pas suffisante pour que il a dit si quelqu'un a pris, il a ajouté il faut qu'on le trouve, mais bon.
C'est pour ça que je trouvais que Rachel, c'eût été différent si elle avait confié à son mari, voilà, c'est d'une bonne intention, elle aurait peut-être validé. Je trouve que ça fait deux fois qu'elle cache des choses.
C'est pas certain. Quoi ? Ça fait quoi ? Non, ça fait pas deux fois.
Eh bien, quand elle a caché à son mari.
D'abord, premièrement, c'était pas nécessaire de lui dire, il n'y avait rien, ça ne le concerne pas. C'est elle qui savait ce que son père était capable de faire et qui a voulu apporter sa contribution à la fuite, quoi, quelque part. Donc, je ne sais pas si Yaakov aurait été d'accord. Yaakov l'aurait peut-être dit, on n'a pas besoin de ça. C'est peut-être une faiblesse de Rachel d'avoir pensé qu'elle doit se protéger de cette manière-là, comme si Hachem n'allait pas les protéger. Et en plus, ça n'a pas vraiment servi, puisqu'au bout de 3 jours, il les a rattrapés. Alors, ils ont gagné du temps, mais ça ne leur a pas permis d'échapper complètement à Lavan.
Il les a pas repris, Lavan. C'est pénate. Or, c'est pénate, c'était.
Bien sûr, là, il n'a pas pu les prendre. Oui. Il n'a pas pu les prendre, mais il a dû s'en fabriquer d'autres. Ok, alors. Donc, ça, c'est une bracha de dévoiler à quelqu'un sa mauvaise mida. Donc, c'est un service à rendre à quelqu'un. Si on sait que quelqu'un a un problème. Si on est absolument certain de pouvoir faire une toracha de ce genre-là, là, en l'occurrence, c'est pratiquement de la nevoua que fait Yaakov, et c'est Yaakov Avinu à la fin de sa vie qui se permet de dire ça. On a déjà vu que la raison pour laquelle, en fait, les reproches que Yaakov fait à Rouven, il aurait dû les le faire en situation. Il aurait dû lui dire, au moment où l'histoire de Bila s'est passée, il aurait dû lui dire tout ça. Mais en fait, les Chazal disent que Yaakov, il a attendu pour faire des remontrances à ses enfants, des remontrances lourdes à ses enfants. Il a attendu d'être à la fin de sa vie. Il ne voulait pas rencontrer ses enfants après croiser dans un couloir ses enfants auxquels il a dit des choses aussi dures parce que peut-être c'est trop difficile pour eux de supporter ça. Chazal disent que Yaakov craignait que Reuven y parte chez Esav. Il aurait pu faire une association avec Esav, l'association des premiers-nés qui ont été lésés par Yaakov. Bon, Esav pour les brachot et Reuven qui Jacob lui a enlevé tout ce à quoi il avait droit en tant que premier-né. Et on voit que c'est une crainte sérieuse parce que Moshe Rabbeinu va faire la même chose. Que Moshe Rabbeinu, il ne fera des remontrances au clan Israël qu'à l'extrême fin de sa vie, sur le modèle de Yaakov. Ça, c'est pour Reuven. Shimon Velevi, Achim, Kle Hamas, Becherotel. Shimon et Lévi sont des frères. L'argument de la fraternité, c'est leur argument pour agir comme ils ont agi pour venger Dinah. Parce qu'ils sont les frères de Dinah, comme ils disent à Yaakov, est-ce qu'on peut laisser notre sœur se faire traiter comme une prostituée par ces gens qui l'ont enlevé, violé, etc. Alors, Yaakov, ici, on est à la fin de sa vie, en situation, vous vous souvenez, ce qu'il avait dit, ce que Yaakov avait dit, c'est « Vous êtes complètement fous, on est une minorité, il y a tous les peuples alentours vont nous tomber dessus. » Il y a un Chazal qui dit qu'effectivement, il y a eu la guerre, mais que Yaakov a gagné la guerre. Hachem a fait un S, et que Yaakov a gagné la guerre. Dans le texte, on voit rien de tout ça, mais le Midrash le dit. En tout cas, Yaakov n'est pas du tout d'accord avec ce que Shimon et Lévi ont fait. Kle Hamas mechirotem. Rashi dit, Kle Hamas, c'est des objets volés, c'est-à-dire en fait, aller tuer les gens pour vous, pour nous, les Bnei Israël, c'est Hamas. C'est-à-dire, c'est du vol. C'est-à-dire, ça fait partie de la bracha d'Esav. À Esav, on lui a dit, Al Harbecha Tichye, tu vivras avec ton épée. Zu Umanut Shelo. C'est sa caractéristique, c'est son savoir-faire. Ve'atem, chamastem ota emen. Et vous le lui avez volé. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont les attributs de certaines cultures, et on n'a pas le droit de se conduire de la même manière parce que c'est leur culture à eux, c'est pas la tienne. Achim, c'était une mala, se considérer comme des frères ou de considérer effectivement un rapport privilégié avec leur sœur, c'est une mala, c'est une qualité. Ils se sont sentis touchés par ce qui est arrivé à leur sœur. Ils se sont mis en colère. Et ils ont massacré tous les gens de Shechem. Leur idée, c'était nous sommes responsables de notre sœur. Enfin, nous sommes les frères de notre sœur, quoi. Et on ne va pas laisser faire les choses. Et ensuite, quand on a jugé Yosef et qu'il a été condamné, ceux qui étaient pour la condamnation, c'est eux, c'est toujours Shimon et Lévi. D'après eux, de nouveau la même chose, Yosef, il a touché à la fratrie, en fait. Puisqu'il se singularise et il dit, dans son rêve, il montre que, enfin, il se voit les dominants. Donc, il se voit sortir de la fratrie. Et là, de nouveau, c'est la même chose. Yaakov leur dévoile que chaque chose doit... les Bnei Israël, ils doivent avoir une conduite qui peut s'ancrer dans ce que les Avot ont fait. Il faut pouvoir se rattacher aux Avot. Cette violence-là, elle n'est pas rattachable aux Avot. Donc, ce n'est pas de chez nous. Donc, vous avez volé cette façon de faire. C'est-à-dire que vous avez une bonne mida qui est la achva, la fraternité, mais vous l'appliquez avec des méthodes qui ne sont pas de chez nous. De la même manière, quand on va parler de Zimri, quand on va parler de Korach, c'était à chaque fois Yaakov dit « Je ne veux pas qu'on mentionne mon nom avec eux. Je ne veux pas qu'on dise qu'ils sont Bnei Yaakov. » Ah, ils le sont, c'est la biologie. Ok, la biologie, oui, mais la Torah, c'est pas du tout de la biologie qui est rapportée ici. Dire que c'est la descendance spirituelle. Donc il dit, je veux pas que mon nom soit, je veux pas m'associer du tout avec eux. Arour, Apam. Maintenant, il faut remarquer qu'ils vont maudit, mais il ne les maudit pas eux. Il maudit leur colère. Arour, Apam. Apam, c'est leur colère. Qui asva, vevratam, ki kachata, achalkem be Yaakov, afitzem be Israël. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, eux, ils ont, leur mida, c'est la Ahva, eh bien, je vais casser ça, puisqu'ils ne savent pas bien l'utiliser. Et donc, je casse, ça veut dire, Lévi, il ne sera pas sur le même plan que les frères. Comme on a dit au début, souvent dans les recensements, il n'y aura pas Lévi à l'intérieur. Et Shimon, il sera saupoudré, et les descendants de Shimon seront des gens qui vont enseigner et qui, par conséquent, seront en général des enseignants itinérants, des gens qui vont aller partout pour enseigner. Et la mida de Shimon, la mauvaise mida de Shimon, elle va continuer avec Zimri, et Moshe Rabbeinu ne donnera pas de territoire à Shimon. La tribu de Shimon, elle n'a pas de territoire dans la distribution faite par Moshe Rabbeinu. Mais c'est la tribu de Yehuda qui va donner une partie de son territoire à Shimon. Et donc Shimon aura des terres, mais qui lui ont été données non pas par Moshe Rabbeinu, dans le cadre général de la distribution des terres, mais par Yehuda. Yehuda, il voudra que Shimon puisse s'installer quand même. Et donc, il va lui donner une partie de son territoire. Bon. Ici, c'est l'exemple d'une bonne mida qui est mal mise en œuvre. Et quand elle est mal mise en œuvre, la bonne mida devient une mauvaise mida. Voilà, on s'arrête là. Il faut que vous fassiez les Tehillim tout seul parce que la chaîne est occupée.